Chers frères et chères sœurs dans le Christ, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint d'amour, feu d'amour et feu de gloire, soient toujours avec vous. Et si vous voulez, nous allons d'abord nous recueillir un instant pour entendre la parole de Dieu. Dans cette épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. C'est lui, le Christ, qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Acclamons cette parole de Dieu. Mes bien chers amis, il me fait plaisir de vous accueillir à cet enregistrement d'un autre des enseignements d'accompagnement déjà annoncés, accompagnement aux quatre interpellations fraternelles proclamées en Église à la Pentecôte de 90 et intitulée « Essor ou déclin de notre Église ?» point d'interrogation. Si vous regardez la liste des enseignements d'accompagnement annoncés, il y a un titre qui est celui-ci: un certain apartheid sévit face au prophétisme en Église, point d'interrogation. Et c'était cet enseignement, précisément, que nous allons partager au cours des prochaines heures. Évidemment, ce thème du prophétisme en Église est un thème très vaste. Je ne prétends pas l'explorer d'un seul coup au cours de ces trois heures d'enseignement. Ce sera donc un premier essai, un premier enseignement d'une série qui se continuera au cours des prochaines années. On s'en tiendra donc aujourd'hui, forcément, aux grandes lignes concernant ce thème. On tâchera de faire un premier inventaire des questions principales qui se posent ou encore qu'on ne se pose pas face au prophétisme en Église. Le plan général de cet enseignement sera celui-ci. Après une brève introduction, nous aurons un enseignement, un exposé qui comprendra environ 8 sections. Dans la première, on parlera du prophétisme en Église. On essaiera de voir le plan du Seigneur à la lumière de quelques textes bibliques. Dans la deuxième section, on parlera du prophète. On essaiera de voir c'est quoi au juste ou c'est qui au juste un prophète. On parlera donc de sa vocation, de sa mission, de son style particulier. Dans une troisième partie, on jettera un regard sur la situation de fait qui existe en Église. Et on constatera, hélas, que le prophétisme est peu compris, parfois même redouté, et souvent combattu, consciemment ou inconsciemment. Et alors on essaiera de démystifier et d'expliquer l'imbroglio actuel fréquent. Dans la quatrième section, on s'arrêtera à la nécessité et à l'urgence d'un retour au vrai prophétisme spirituel en Église, et non seulement à sa réhabilitation, mais à sa revalorisation. Cinquième partie, on énumérera les cinq principaux ennemis qui, en pratique, veut pas, barrent souvent la route au véritable essor du prophétisme, pourtant désiré et recherché par l'Esprit du Seigneur. Sixième partie, on considérera certaines réflexions sur le comment et le pourquoi du discernement important de ce qui est prophétique ou non, et de qui est prophète ou pas. Septième partie, si le temps me le permet, j'aimerais partager quelques conseils d'amis aux prophètes, hommes et femmes, qui en sont ou en seront à leurs premières armes ces années-ci. Huitième et dernière section comportera un partage fraternel concernant notre vécu des 15 dernières années aux fondations. Je parlerai de la nature prophétique des fondations, Pax Vobis et que ton règne vienne, et de notre modeste contribution expérimentale à la revalorisation du prophétisme spirituel en Église. Et nous tirerons, comme il se doit, un certain nombre de conclusions. Un mot d'introduction. Comme vous le savez, ou encore je vous l'apprends, il existe présentement en Église, et fort malheureusement, une très grande ignorance concernant toute la question du prophétisme et des prophètes. D'où, on l'imagine bien, découle passablement de confusion. Je dirais même qu'en certains milieux, il s'agit d'ignorance crasse, c'est-à-dire entretenue plus ou moins consciemment. On veut bien employer les mots pour parler de quelque chose, soit du passé, dans l'Ancien Testament, les grands prophètes bien connus. On veut parler du prophétisme et de toutes les caractéristiques du prophète, pourvu que ce soit du lointain, du vague. Mais on ne veut pas croire que cela puisse exister sous nos yeux, entre nos murs, et par des instruments qu'on n'a pas choisis, formés, contrôlés, ou même désirés. Du moins, très peu, trop peu, je crois, se donne vraiment la peine de vouloir tirer toute cette question au clair une fois pour toutes et de s'y engager sérieusement. Cette ignorance non seulement entretient une confusion chronique et une peur contagieuse, mais elle entraîne, entre autres, trois conséquences sérieuses et dommageables. D'abord, on voit se développer, avec les années, une attitude d'apartheid de la part de bien des responsables et fidèles en Église, c'est-à-dire une tendance à vouloir tenir à l'écart, à isoler, parfois même à neutraliser, à vouloir faire taire, dompter, exiler ou éliminer même les candidats ou candidates au prophétisme, soit par incompréhension ou peur de leur rôle, ou par insécurité devant leur dire ou leur agir. Qui d'entre nous ne connaît pas même des cas de génocide dans ce domaine, ou pour être sûr de ne manquer aucun faux prophète possible, on les extermine tous, comme Hérode l'a fait avec le massacre des innocents. Deuxième problème, c'est que cette peur et cette confusion chronique suscitent une tentation évidente pour les prophètes, ainsi incompris ou menacés, de recourir, afin de se protéger, au camouflage et au maquis même. Ce qui est ou serait une très, très grave erreur, car ce ministère du prophétisme, à cause précisément de ses caractéristiques particulières, exige plus que tout autre d'être identifié et de s'exercer au vu et au su du milieu. Sans cela, le prophète ne peut recevoir l'accueil, le discernement, la confirmation, les réponses qui lui sont nécessaires. Et finalement, cette confusion chronique risque, par ignorance, de nous faire glisser vers un genre de brouillard paradoxal, composé à la fois de fausse humilité ou de faux snobisme. Comme on le sait, Saint Paul, et nous y reviendrons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, déclare, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, « Et c'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs, et d'autres comme chargés d'enseignement. » Tous ces grands ministères doivent s'exercer ouvertement et leurs titulaires doivent être bien identifiés. Personne ne passe pour prétentieux, orgueilleux, s'il se déclare évêque, successeur des apôtres, enseignant, évangéliste, pasteur d'art. Mais si quelqu'un, en son âme et conscience, après avoir reçu et bien discerné l'appel du Seigneur, s'identifie par souci de transparence comme prophète, on le croit orgueilleux, prétentieux. Or, c'est le ministère parmi les cinq que saint Paul énumère qui est peut-être le plus ingrat, le plus risqué, le plus exigeant, dont les normes sont variées et variables, qui doit s'exercer veut-veut pas, car quand on pense à ce que le Seigneur dit à certains prophètes, « Si tu ne dis pas ce que je t'ai demandé, si tu trembles, je te ferai trembler à mon tour. » Alors le prophète doit agir, doit parler, même s'il n'a pas entre les mains un papier de l'archevêché avec le sceau de la chancellerie et un gentil mot d'appréciation de son archevêque ou de son évêque. Mes chers amis, en certains milieux, tout au plus, on a de la tolérance, mais une tolérance qui est peu éclairée et mal vécue. Il n'y a pas de honte à être prophète, et il n'y a pas d'orgueil non plus. Donc pourquoi ne pas avouer ce qu'on croit sincèrement être, vouloir dire ou faire. Mes chers amis, passons maintenant à la première partie Et regardons dans la Bible ce que le Seigneur semble avoir prévu dans le domaine du prophétisme. Dans cette première partie, nous verrons d'abord trois textes qui nous montrent très bien le plan progressif de Dieu concernant le prophétisme. Et ensuite, quelques textes de Saint Paul qui mettent en évidence la nécessité, l'importance du prophétisme et des prophètes dans la vie des communautés en Église. Vous savez comme moi que Moïse, qui vivait 1250 ans avant Jésus, a émis le vœu un bon jour que tout son peuple en soit un de prophètes. Et je cite, « Si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes, sur qui le Seigneur aurait mis son esprit. » Texte tiré du livre des Nombres, chapitre 11, verset 29. On sait que, pour prendre une expression populaire, à un moment donné, Moïse en avait son voyage. Le peuple se plaignait de tout et de rien. Il lui répétait, jour après jour, « Donne-nous de la viande à manger, on en a assez de la manne. » Et à un moment donné, Moïse, si grand prophète qu'il soit, s'exclame en disant, « Je ne puis plus à moi seul porter tout ce peuple. » Verset 14. Alors le Seigneur lui dit, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, amène-les à la tente de la rencontre, je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. » Versets 16 et 17, et versets 24 et 25, le Seigneur le fait. Et ils se mirent à prophétiser. Joël, qui a vécu 900 ans plus tard, donc vers 350 avant Jésus-Christ, annonce prophétiquement une grande effusion de l'Esprit. Et je cite Joël 3, 1 au verset 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, et on sait qu'aujourd'hui il y en a comme jamais auparavant, hommes et femmes, je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre. Et on arrive à la Pentecôte, où l'apôtre Pierre déclare que nous y sommes. L'ère annoncée par Joël est arrivée. Et dans son discours, où il essayait d'expliquer, après la Pentecôte, au peuple, il dit ceci, « Non, ces gens qui vous parlent, ils parlaient sous la mouvance de l'Esprit, ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive, c'est bien ce qu'a dit le prophète, et il cite Joël, Actes des Apôtres 3, Joël 3, 1, 5. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et voilà, mes chers amis, nous sommes dans cette ère prophétisée, où il y aura une multitude qui ne cessera d'augmenter de prophètes et le prophétisme connaîtra un essor inouï. Voyons maintenant comment concrètement le prophétisme est appelé à faire œuvre en Église. Et pour nous situer, j'ai pensé qu'il ne pouvait y avoir rien de mieux que de consulter Saint Paul. Saint Paul est le plus éloquent sur le sujet du prophétisme. Il n'est pas un des 12 apôtres comme tel. Il a reçu sa mission directement du Christ ressuscité. Mais il est considéré comme un apôtre au sens fort, qui se distingue, pour prendre sa propre expression de saint Paul, des apôtres dits par excellence. Paul a été prophète également, sans pour autant en prendre le titre. Il a été un témoin oculaire des débuts de l'Église. Or, qu'est-ce qu'il dit? Dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22, après avoir évoqué qu'à partir du juif et du païen, Jésus-Christ a voulu créer en lui un seul homme nouveau, c'est-à-dire réunir en son corps sans distinction juif et païen pour vivre ensemble d'une seule vie nouvelle, il précise ce qui suit. Verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints, c'est-à-dire des baptisés, des membres du peuple de Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Et écoutez bien, verset 20. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse, c'est-à-dire la clé de voûte qui ordonne l'ensemble. Verset 21. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, c'est en lui encore, Jésus, que vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. C'est un des textes les plus explicites de la Bible, où l'on voit affirmer clairement l'importance de l'intime collaboration qui doit exister entre les apôtres et les prophètes. Parlant de la communauté chrétienne, saint Paul précise qu'elle doit se développer en ayant pour fondation, c'est fort, pour fondation, les apôtres et les prophètes, alors qu'il réserve au Christ d'en être le fondement. Et notons-le bien, et d'ailleurs les notes dans la Bible de Jérusalem et la Bible de Tob concernant ces textes précisent qu'il s'agit bel et bien des prophètes de l'Église primitive et non ceux de l'Ancien Testament. D'ailleurs, un peu plus loin, à Éphésiens 4, 11 et 12, dans sa longue énumération des divers ministères importants, il cite les prophètes immédiatement après les apôtres. Je reprends le texte que nous avons cité à deux reprises déjà. C'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs et chargés de l'enseignement. On retrouve chez saint Paul, au chapitre 3, verset 5, encore la même association apôtre et prophète, quand il dit « Ce mystère, celui du Christ dont il parle, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. » Donc, dès le début de l'Église, on voit saint Paul affirmer à la base de la communauté l'indispensable collaboration qui doit exister entre les chefs de file, que sont les apôtres et leurs successeurs, et les prophètes, et j'oserais dire, les successeurs des prophètes. une collaboration qui a le Seigneur Jésus comme fondement, c'est-à-dire à la fois pierre angulaire de base et pierre du sommet ou clé de voûte, car c'est lui qui a choisi et envoyé tous ses apôtres et tous ses prophètes et continue de guider leurs successeurs, successeurs des apôtres et des prophètes. M'appuyant donc sur ce texte très explicite de saint Paul, je n'hésiterai pas à déclarer faux prophète, celui en qui on ne retrouve pas deux choses importantes, Jésus-Christ comme pierre maîtresse de cette édification du corps du Christ, et refus d'accueillir et de vouloir collaborer avec les successeurs des apôtres. Et dans le même souffle, je dirais, faux apôtre ou faux successeur des apôtres, celui qui, lui aussi, ne sent pas Jésus-Christ comme pierre maîtresse de cette construction et refuse d'accueillir et de collaborer avec leurs plus proches associés, les prophètes. Évidemment, les charismes et les ministères apostoliques, apôtres et prophétiques par les prophètes diffèrent énormément. Les diversités et complémentarités peuvent être et sont souvent très difficiles à saisir, à harmoniser, à intégrer. Mais saint Paul le précise, ne l'oublions pas. C'est en lui que toute construction s'ajuste et grandit. Donc c'est en lui le Christ, le même pour les deux, que les successeurs tant des apôtres que des prophètes doivent chercher à se comprendre, se compléter, s'aimer et s'harmoniser. Voilà donc l'enseignement de saint Paul. Il parle du couple apôtre-prophète comme étant élément essentiel de fondation dans la communauté chrétienne. Évidemment, c'est intéressant comme couple, pourvu qu'ils soient en harmonie. C'est par eux deux, apôtres et prophètes, que de la vie de saint Paul, entre autres, il n'est pas le seul à penser ça, que la parole de Dieu se développe et se propage, que les communautés se créent et se consolident. Les apôtres passent les premiers. Ils partent en mission et suscitent des communautés. Les prophètes passent ensuite. Ils se consacrent à l'édification, à la consolidation et au développement des communautés. Et d'ailleurs, saint Pierre, chef de l'Église, n'hésite pas à l'affirmer en d'autres termes. Quand il dit dans sa deuxième épître, chapitre 1, versets 19 à 21. Il venait de parler des apôtres, puis il ajoute ceci. Nous avons également la parole des prophètes, qui est la solidité même, sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est entendu qu'une prophétie doit toujours attendre l'heure de sa confirmation. Mais si elle a été bien discernée, on n'a pas à en douter en attendant. Et saint Pierre précise pourquoi. Sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée, c'est-à-dire ne provient pas de la propre pensée du prophète. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit-Saint que que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, mes chers amis, ce que la Bible nous enseigne concernant l'importance de ce rôle du prophétisme en collaboration avec celui des successeurs des apôtres. Or, grand étonnement, dans tout le code de droit canonique, qui comprend 1752 canons ou articles, eux-mêmes subdivisés. Ce code de droit canonique qui nous donne la structure fonctionnelle de l'Église en marche. On consacre beaucoup d'articles aux successeurs des apôtres, aux pasteurs d'âme, aux docteurs enseignants en Église, à l'évangélisation, mais absolument rien, R-I-E-N, au prophétisme. Dans tout ce code de droit canonique, et regardez, je l'ai fait dans différentes éditions du code de droit canonique, la table analytique, le mot prophétisme ou prophète, prophétique, n'est mentionné qu'une fois au canon, à l'article 204, et je cite, « Par le baptême, nous, les fidèles, nous participons à la mission sacerdotale, prophétique et royale de Jésus. » Voilà. Le prophétisme et les prophètes sont évaporés. On n'en parle pas. On ne dit pas qu'ils ont même le droit d'exister. On ne donne aucune norme pour les guider, pour encourager les gens à les discerner. C'est un silence complet. C'est grave, parce que par le fait qu'on ne reconnaît pas officiellement dans le code de droit canonique, ne serait-ce qu'en termes généraux, le prophétisme et son exercice en Église, deux conséquences s'ensuivent. Pour certains, c'est comme si cela n'existait pas ou n'était pas approuvé par l'Église. Je connais des évêques qui ne veulent jamais approuver quoi que ce soit si ce n'est pas mentionné dans le code de droit canonique. Un évêque me disait, on ne parle pas de renouveau charismatique dans le code de droit, je n'ai pas à approuver ça dans mon diocèse. Pour d'autres, parce que le prophétisme n'a pas de section propre, ils ont alors tendance, consciemment ou inconsciemment, de vouloir faire entrer le prophétisme et son exercice sous l'enseigne de l'un ou l'autre des différents ministères dont il est question officiellement. Ils conçoivent alors le prophétisme à leur guise pour pouvoir mieux l'assimiler à ce qui fait leur affaire. Et je vous fais ici une confidence. Quand j'ai exposé devant l'Assemblée plénière des archevêques et évêques du Canada en avril 1975, le rôle, à leur demande, le rôle, la nature et l'esprit caractéristique des fondations, j'ai reçu au cours du forum qui a suivi 6 questions de la part des évêques. Et l'une d'elles m'est venue précisément d'un évêque canoniste de formation. Après avoir entendu l'exposé sur les fondations, il voulait savoir de moi dans quel petit casier, c'est son expression, quel petit casier canonique se situaient les fondations en question. Et à cela, j'ai répondu bien franchement que, après consultation auprès de divers canonistes, personne ne semble le savoir. Tous s'accordent à reconnaître qu'il y a là, dans les fondations, quelque chose de tout à fait neuf, de post-conciliaire, et de non prévu au code. Ça se comprend. Les fondations ont cette nature prophétique depuis leur conception. Et alors, forcément, les fondations n'entrent dans aucune de nos catégories traditionnelles prévues au Code. Elles ne sont, à vrai dire, ni une association de fidèles, ni un institut de vie consacré, ni une société de vie apostolique, ni un organisme d'enseignement, ni un organisme d'évangélisation, ni un organisme missionnaire, etc. Même si, à l'occasion, aux fondations, on retrouve certains traits similaires à ces divers types reconnus et mentionnés dans le Code. C'était, au moment où on m'a posé la question et j'ai donné la réponse, au temps de l'ancien Code de droit canonique. Et depuis, comme vous le savez, depuis quelques années, un tout nouveau Code vient d'être publié et lui non plus n'a encore rien prévu. Eh bien, ce sera peut-être, je l'espère, pour le prochain code. Le mieux ou le moins mal qu'on puisse faire pour nous, comme organisme de nature typiquement prophétique, c'est de nous en référer au canon 215. Mais lui non plus ne règle pas grand-chose. Donc, vouloir entrer de force dans l'une ou l'autre des catégories, le prophétisme, c'est le dénaturer, dénaturer son style et sa portée. On sait, mes chers amis, est-il besoin même de le préciser, que le Seigneur a accordé lui-même aux apôtres l'autorité première en Église. Et dans ce couple, apôtres, prophètes, ils ont toute autorité. Ils ont non seulement droit de regard, mais aussi d'intervention face au prophétisme et aux prophètes. Mais ils n'ont pas le droit d'ignorer celui-ci ou ceux-ci, d'empêcher leur ministère ou de les compliquer, encore moins d'intervenir de manière à dénaturer le prophétisme ou de le mettre en cause. Le couple apôtre et prophète s'est peu à peu estompé et éclipsé. L'un des deux conjoints, comme il arrive parfois, on le sait, dans la vie, prenant à lui seul toute la place et éliminant, consciemment ou non, l'identité et la personnalité de l'autre. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième section. Un prophète, c'est quoi, ou plutôt, c'est qui au juste? Essayons de démystifier un peu tout cela. Disons d'abord quelques mots sur sa vocation, son appel, puis sa mission, et enfin très brièvement sur son style. Le prophète, risquons une définition, c'est quelqu'un qui est choisi par le Seigneur, appelé, préparé, mandaté et inspiré au fur et à mesure pour être, par ses paroles, ses écrits, ses gestes, ou les trois à la fois, un messager spécial du Seigneur, soit auprès d'individus, soit auprès de groupes, soit auprès du peuple tout entier. Quand, comme et tant que le Seigneur le désire. Me vient ici cette Ce texte de Jean-Paul II, qui dans une audience le 14 février dernier, parlant précisément de l'action prophétique de l'Esprit-Saint, dit ceci, je cite, « Sans doute, le phénomène prophétique que l'on observe historiquement est lié à la parole. Le prophète est un homme qui parle au nom de Dieu, transmet à ceux qui l'écoutent ou le lisent ce que Dieu veut faire connaître sur le présent et sur l'avenir. L'Esprit de Dieu anime la parole et la rend vitale. Il communique au prophète et à sa parole une certaine éloquence divine par laquelle elle devient vibrante, parfois passionnée et pleine de souffrance, toujours dynamique. » Fin de la citation. Parlons d'abord de la vocation du prophète. Et à ce propos, je me permets de vous recommander un excellent petit ouvrage publié aux éditions Bellarmin à Montréal ou aux éditions Desclés à Paris, Tournai. Ouvrage de Walter Vogels, V-O-G-E-L-S, qui est un Belge, un père blanc, professeur d'écriture sainte à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, au Canada. L'ouvrage de 122 pages s'intitule « Le prophète, un homme de Dieu ». Et je m'inspire de son ouvrage pour aborder toute la question de la vocation du prophète. Justement, au chapitre 1, l'auteur précise d'abord que le prophète, ce n'est pas un homme qui un jour se décide à devenir prophète. Ce n'est pas non plus quelqu'un que le peuple ou l'autorité délègue à être prophète, mais c'est Dieu qui le choisit, librement et gratuitement. Et ces appels de Dieu aux prophètes ont suivi au cours des âges divers scénarios, divers itinéraires particuliers selon les cas. Et l'auteur, pour illustrer les trois types les plus classiques d'appels, va puiser dans l'histoire des grands prophètes de l'Ancien Testament. Mais vous verrez à la lecture de ce que je vais dire que c'est encore aussi vrai de nos jours, avec les prophètes du Nouveau Testament et les prophètes de notre temps. Le premier type d'appel, c'est le type ordre d'exécution. C'est l'appel que Jonas a reçu. Lève-toi, va et proclame. C'est l'appel de cette manière-là que Amos l'a reçu. Quand il a entendu, c'est Yahweh, quand il dit, c'est Yahvé qui m'a pris, et Yahvé m'a dit, va, prophétise. La même chose avec Osée. La même chose avec Élie. Après son découragement, Yahvé lui dit, va et retourne. La même chose avec Abraham. Yahvé lui dit, va. Jonas, lui, a tenté de déserter, de ne pas obéir à cet ordre d'exécution, mais Dieu l'a poursuivi, l'a rattrapé, il lui redonne exactement le même ordre,